19h, c'en est fini pour le Saint-Disque.
On vous le rappelle, le 18 mars, c'est la tournée générale, si vous n'avez pas vu encore les infos, la com. C'est une sorte de gros marathon qui aura lieu dans tout Orléans, des bars, plein de bars, et de la musique proposée par le Saint-Disque, par Ronald Groove, par aussi Radio Campus avec la classe internationale. Un gros truc de DJ pour rappeler qu'on peut faire de la musique en ville, parce que ça devient compliqué à faire comprendre parfois aux riverains, donc voilà. Hein ? On va les ambiancer un petit peu. 19h, c'est l'heure de retrouver l'émission du fictionnaire.
De la fiction. Que se passe-t-il ici au juste ? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres, de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues, des interviews longues de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire.
Ah, Karl, ce soir, nous allons parler des fantômes. Une enquête sur les maisons hantées nous conduira en Angleterre vers 1950. Ça s'appelle « Les intelligences particulières ». C'est écrit par l'anthropologue Grégory Delaplace. Ça s'est sorti aux éditions Vue de l'Esprit, donc de l'anthropologie, qui s'intéresse à des phénomènes avec l'invisible. Souvent, les anthropologues les étudient en dehors de l'Europe, en dehors de l'Occident. C'est le cas de Grégory Delaplace, qui étudie plutôt des populations nomades du nord de la Chine et de la Mongolie. Et là, son dernier terrain a eu lieu en Angleterre, où il a expurgé des archives, les archives d'une société qui s'intéresse à ces types de phénomènes avec l'invisible. Ça sera en deuxième partie de l'émission. Et ça, c'est assez connecté avec Bertrand Meeust, que nous avons déjà eu l'occasion d'avoir en interview et qui sera en vrai à la médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle. C'est quand même juste à côté d'Orléans, cette médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ça sera jeudi, donc jeudi soir qui vient à 18h30, ça dure 1h30, rencontre dans les rendez-vous du savoir avec Bertrand Meeust pour parler de son livre le plus incroyable, le plus fameux, écrit à la fin des années 70, qui s'appelle « Science-fiction et soucoupe volante ». Ça parlera donc de soucoupe volante et du croisement avec la science fiction. Et ça, c'est toutes les recherches de Bertrand Meeust. C'est très sérieux, ça s'appelle les rendez-vous du savoir. Mais auparavant, la première interview de ce soir, vous le connaissez déjà, c'est sa troisième interview ici, c'est Laurent Testot, qui fait de l'histoire globale, donc de l'histoire générale de tout le monde entier depuis le début de l'humanité, pour son nouveau livre qui s'appelle « Vortex, faire face à l'Anthropocène », qu'il a coécrit avec Nathanael Wallenhorst. Ce sera lui en première partie de l'émission. Nous parlerons donc de ce concept de l'Anthropocène, nous parlerons de la catastrophe climatique et écologique. C'est quelqu'un qui est très très documenté, qui est très actualisé dans ses connaissances, et c'est parce qu'il fait de l'histoire globale qui est peut-être le mieux à même de nous restituer ce type de connaissances particulières et précises. Et ça sera avec lui que nous commencerons après un morceau, Karl, de musique.
Oui, ce soir, on s'intéresse au BBC Radiophonic Workshop. Qu'est-ce donc ? C'est un peu l'équivalent du GRM, mais financé par la BBC, donc en Angleterre, et ce, pareil, un peu à la fin des années 50. En gros, ce collectif, il a été initié en 58 par Desmond Briscoe et Daphne Oram, dont on va écouter un morceau là juste après. Et ce collectif va permettre à la BBC de se doter d'habillage sonore, en fait, en tout genre, pour les émissions, les séries. Plein de choses. Et donc, imaginez voilà, un collectif de 12-15 personnes qui, qui sort du son tout le temps et ça sert à illustrer. Ce focus sur la BBC Radiophonique Workshop, je voulais le faire ce soir en fait, pour rappeler aussi que ces musiques ont été samplées ensuite. Elles ont d'abord été diffusées, mais ensuite utilisées par des musiciens. Et notamment le morceau de Daphné Oram qu'on va écouter, donc cette la créatrice de ce collectif, il a été samplé par un rappeur qui s'appelle Lil Darky. Donc c'est pour dire aussi que la musique contemporaine, un peu la musique de pionnier aussi, a servi à nourrir la création musicale contemporaine. On écoute Birds of Parallax tout de suite de Daphné Oram.
Je suis en compagnie de Laurent Testo. Bonjour, merci de me recevoir pour parler de ton nouveau livre écrit avec Nathanaël Vanhenhorst. Ce livre s'appelle Vortex, faire face à l'Anthropocène. Il vient de paraître aux éditions Payot. Ce livre fait suite notamment à un de tes grands livres paru en 2017 qui s'appelait Cataclysme. Une histoire environnementale de l'humanité. Je renvoie à la longue interview que nous avons eue ensemble en 2017 pour parler de ce livre. J'aimerais déjà savoir comment tu en arrives à écrire Vortex, faire face à l'Anthropocène après ce livre, qui était un livre d'histoire générale sur l'humanité et son environnement.
Merci Dominique Janvray pour m'inviter avec constance. À chaque fois que je publie un livre, c'est rare et c'est précieux. Vortex, alors que j'ai coécrit avec Nathanaël Vanhenhorst, qui est un spécialiste de l'Anthropocène, est une suite logique quelque part de Cataclysme. Cataclysme racontait ce qui s'était passé entre l'humain et son environnement depuis 3 millions d'années, comment nous l'avons modifié, comment il nous avait modifié en retour. Et puis bien sûr, à la fin, il commençait à aborder cette époque que nous vivons, l'Anthropocène, où l'humanité a tellement altéré son environnement qu'elle s'est substituée aux grandes forces naturelles terrestres pour le façonner. C'est ça le concept d'Anthropocène. Mais il fallait encore explorer les conséquences de l'Anthropocène. Et c'est pour ça que ça m'a longtemps traîné dans la tête. J'ai été invité, après la publication de Cataclysme, à de nombreux festivals d'effondristes, de collapsologues. Ça m'a permis de creuser ces concepts, de les mettre face à la science. Et du coup, j'ai voulu faire partager ça avec Nathanaël, qui a déjà consacré plusieurs livres à l'Anthropocène. Et on a essayé de mettre ça en scène à travers une perception scientifique, mais sur les deux mamelles de la science, j'oserais dire, c'est-à-dire les sciences dures, exactes, celles du système Terre, qui martèle quelque chose qui est très anxiogène. Et derrière les sciences... Allez, on va dire les sciences douces pour ne pas dire les sciences molles, c'est-à-dire les sciences humaines qui m'ont façonné et qui sont fondamentales pour comprendre l'Anthropocène, parce que dans l'Anthropocène, il y a anthropos, c'est-à-dire l'humain. Si on ne met pas l'humain au cœur de l'Anthropocène, alors on va subir l'anthropocène des experts, qui vous diront « Ben, il suffit de mettre de la poussière quelque part dans l'espace au point de Lagrange pour ralentir la pression solaire sur la Terre. Il suffit de recréer des écosystèmes, ben voyons, etc. etc. » C'est quelque chose de citoyen que d'envisager l'anthropocène sous toutes ses facettes, et notamment ses facettes de sciences humaines.
Alors, pour commencer, on peut peut-être définir ce qu'est cette nouvelle notion de système Terre, puisque dans système Terre, il y a à la fois la biosphère, le système climatique et les sociétés humaines. C'est cet ensemble-là qui s'appelle nouvellement système Terre et qui devient peu à peu une discipline, la science du système Terre.
Alors, les sciences du système Terre seraient peut-être plus exactes tant la galaxie est variée. C'est un concept transdisciplinaire qui nous montre la nécessité d'être transdisciplinaire aussi quand on aborde ces problèmes. Ces problèmes sont systémiques, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des relations entre le vivant, le géologique et les sociétés humaines. Et ça, on ne peut pas en faire abstraction. Et on ne peut pas prétendre appréhender l'ensemble de ces relations à travers une seule discipline. Il faut faire collaborer les disciplines à part égale, c'est-à-dire leur donner à chacune sa légitimité pour se mesurer de façon crédible à ces problèmes, aux problèmes que soulèvent justement ces nouvelles dimensions. On est en train, par exemple, de perturber le climat, comme tu le sais, mais ça a beaucoup de conséquences sur le vivant, sur l'eau, que l'on peut se procurer, sur l'agriculture, c'est-à-dire sur ce qu'on peut manger, sur l'habitabilité des villes, sur la façon dont on consomme. Donc il y a énormément de questions, jusqu'à des questions éthiques, qui sont dans ce nuage de sens. Donc on ne peut l'aborder qu'à travers une pensée systémique. Le système Terre, c'est une pensée systémique dans les sciences dures, exactes, pour penser à la Terre comme un mécanisme d'ensemble. J'aime bien référer à un travail fondamental qui est celui de James Lovelock, lorsqu'il a mis en évidence à travers l'hypothèse Gaïa que si notre planète était si favorable à la vie, c'est parce que la vie avait façonné notre planète. S'il y a de l'énergie sur cette Terre, c'est aussi parce que la vie a accumulé cette énergie. Le charbon, le pétrole, c'est une sorte de pile énergétique qui a été donnée à travers les âges géologiques par des formes de vie, des arbres, du plancton qui s'est sédimenté, qui a été écrasé par des fortes pressions, etc. et dont aujourd'hui on draine cette énergie. C'est un peu comme si pendant 500 millions d'années, voire peut-être plus, la vie avait accumulé de l'énergie sur Terre et que d'un seul coup on avait découvert le déclic de la pile, qu'on l'avait actionné et qu'on avait construit nos civilisations thermo-industrielles depuis un siècle sur cette débauche d'énergie. Mais ce faisant, on a endommagé la pile. C'est un peu comme si on avait creusé dans la pile et qu'on avait commencé à répandre l'acide et que celui-ci avait touché les océans. Les océans sont en train de s'acidifier. J'ai raccourci le mécanisme, mais l'image est parlante. Nous sommes en train de mettre en danger les conditions même de vie sur Terre. Je ne dis pas que le vivant va s'éteindre. Je dis simplement que nous sommes tout en haut de la pyramide trophique, c'est-à-dire de la pyramide énergétique et agricole, nourricière, nous trônons là-haut, et à partir du moment où nous désagrégeons la base, alors nous risquons de tomber de très haut. Ce qui est en jeu derrière l'anthropocène, c'est l'habitabilité de la Terre dans les décennies à venir.
Et donc je voudrais revenir au système Terre, la manière dont tu l'entends précisément dans ce livre-là, en fait. Parce que c'est peut-être La première étape à ton travail de bien comprendre ce qu'est ce système Terre, d'un côté biosphère, d'un côté système climatique, mais qui rajoute l'élément société humaine avec.
Alors, le livre a été coécrit avec Nathanaël Vallenhorst, qui est professeur de sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. C'est plutôt lui qui a traité de cette dimension en trois parties. Donc, je ne vais pas tellement m'attarder dessus. Donc, le livre est Vortex, c'est coécrit avec Nathanaël Vallenhorst, qui est professeur de sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. C'est lui qui a conçu en fait l'encadré auquel tu fais référence, qui expose que le système Terre, c'est la biosphère, plus le système climatique, plus les sociétés humaines. Et Nathanaël a quelque chose de très fort lorsqu'il passe en conférence ou vidéo, c'est de dire qu'en fait, le vortex, c'est l'aspiration entre la destruction de la biosphère, l'impact sur le système climatique, l'impact sur les sociétés humaines, avec les circulations entre les uns et les autres. Cela crée une espèce de tourbillon d'affaissement. Un vortex, à la base, c'est un tourbillon, ça vient du latin « tourner ». Et l'idée est que nous avons l'impression d'être dépassés, engloutis dans un maelstrom que nous ne pourrions pas arrêter. Par exemple, le fait que nous détruisions la biosphère a accéléré le réchauffement climatique. Je vais donner un exemple parce que j'aime beaucoup parler des baleines. On a traqué les baleines, on a détruit la plupart des grands cétacés à partir de la seconde moitié du 19e siècle et jusqu'à tard au cours du 20e siècle. Or, les baleines étaient participaient de la captation carbone, si on veut parler comme un ingénieur, c'est-à-dire qu'elles mangeaient du krill captaient le carbone que ces minuscules crevettes avaient stocké dans leur carapace. Elles le broyaient dans leurs intestins et puis, par leurs excréments qui descendaient, les excréments de baleines sont très denses, simplement il faut imaginer quand vous pesez 40 tonnes, la pression que font vos intestins. Et donc, ces excréments descendaient sur le fond des océans. De même, les grands poissons participaient à cette captation carbone. En détruisant les baleines, en détruisant les stocks de grands poissons, un peu plus tardivement, nous avons déjà fait dérailler une partie de la pompe à carbone de la planète. Ajoutons à cela qu'on a drainé énormément de marécages, qu'on a détruit des forêts qui étaient fonctionnelles, qu'on a coupé le cours des cours d'eau. Tout ça a certes impacté directement le vivant, mais cela a également enrayé de nombreuses pompes à carbone sur la planète et donc accéléré le problème du réchauffement climatique. Donc en pesant sur les écosystèmes, on a pesé sur le problème climatique. Le climat, en revanche, oblige des écosystèmes à s'adapter à la chaleur. On voit des endroits qui sont littéralement stérilisés par des vagues de chaleur qui deviennent de plus en plus violentes et de plus en plus imprévisibles. On voit des espèces migrer vers le nord ou migrer en altitude dans l'espoir de survivre. Certaines s'adaptent, la plupart ne pourront pas. On en est aujourd'hui à envisager de déplacer des forêts entières pour faire survivre des écosystèmes. On ne sait pas vraiment comment réagir, mais ce qui est certain, c'est que le climat et la biodiversité s'impactent mutuellement et aggravent leurs problèmes respectifs en sus de ceux causés par les sociétés. La façon dont on prélève sur les écosystèmes ou dont on émet des gaz à effet de serre augmentant dangereusement le réchauffement climatique met nos sociétés en péril. Donc effectivement, à regarder les relations intersystémiques qui président à ces trois ensembles, on a l'impression d'un vortex. Ajoutons qu'il faudrait complexifier la chose parce que dans la littérature classique du système Terre sur l'Anthropocène, les scientifiques ont défini 9 limites,
voilà, j'aimerais
un peu arbitrairement, mais cela ajoute de la complexité et des interactions en sus à cette dynamique.
Donc, Laurent, tu nous as bien parlé de vortex, l'usage de ce titre-là. Il y a aussi cette notion d'anthropocène, qui est une notion nouvelle, qui vient après celle de l'Holocène. On vivait depuis 11 000, 12 000 ans dans l'ère, dans l'âge de l'Holocène, qui était très favorable à la complexité, à l'arrivée des sociétés humaines complexes et à faire des civilisations humaines. Nous quittons cette ère de l'Holocène pour celui de l'Anthropocène et il y aurait alors 9 limites planétaires à ne pas franchir pour ne pas sombrer dans l'Anthropocène. J'aimerais que tu nous parles de ces 9 limites planétaires à ne pas franchir.
Avec plaisir. Alors, avant cela, pour t'éviter de recevoir des courriers outrés de la communauté des géologues, je vais un peu corriger. Ce n'est pas une ère, mais une époque géologique. Il y a des aires géologiques qui sont des grands moments et il y a des aires, des époques et l'Holocène est une époque. C'est donc l'époque de c'est un interglaciaire, l'Holocène, c'est-à-dire que depuis 1 million d'années, nous avons des cycles glaciaires-interglaciaires. Le glaciaire dure à peu près 100 000 ans, l'interglaciaire 10-20 000 ans. Et là, après un glaciaire assez long, il y a 11 700 ans, nous sommes entrés dans une période relativement chaude, de l'histoire humaine. Et c'est cette période qui était relativement stable, c'est-à-dire, quand on parle de climat, on se réfère à des températures de référence qui ont été mesurées dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc si aujourd'hui nous sommes à plus 1,2 degrés centigrades au-dessus des températures de référence, c'est par rapport à ce qui a été mesuré à la fin du petit âge glaciaire. Et les variations qui ont été constatées ces 11 700 dernières années sont de l'ordre de plus ou moins 1 degré grand maximum. Et elles ont été dictées par de grands cycles climatiques et par des éruptions volcaniques majeures, des vagues de froid, des vagues de chaleur. Nous sommes d'ores et déjà sortis de ces limites-là. En termes de 9 limites, celles qui ont été définies comme fondamentales pour la civilisation humaine, la première, c'est celle du climat. On l'a excédée, c'est-à-dire on la mesure avec deux facteurs. Facteur radiatif, la chaleur qui nous vient du soleil et qui tape sur la Terre. On l'a déjà trop altérée. Et facteur qui est lié en gaz à effet de serre, on le mesure surtout à travers le CO2, et on a déjà excédé le taux de CO2 dans l'atmosphère. En gros, on est parti à 285 à la fin du 19e siècle, 285 ppm, c'est-à-dire parties par million, par mètre cube d'atmosphère. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 420. Et ça n'arrête pas de croître, alors que la limite à ne pas dépasser aurait été 350. Nous avons dépassé cette limite dans la seconde moitié du XXe siècle. Il en est de même des autres concepts de limites planétaires. On mesure la biodiversité à travers le taux d'extinction. Il est déjà trop élevé, au minimum 100 fois, voire 1000 fois plus élevé qu'il serait sans nos interventions, artificialisation de milieux, épandage de produits toxiques dans la nature, etc. Il y a également la dimension de l'acidification des océans. Les océans s'acidifient parce qu'ils captent le CO2 et c'est vraiment d'une ampleur dramatique. Par exemple, pour les coraux, vont disparaître, c'est quasiment acté. Les derniers disparaîtront dans la seconde moitié du 21e siècle, sauf si on les modifie génétiquement ou que l'on leur aménage des conditions particulières de survie. A priori, en tout cas, les coraux tels qu'on les connaît, les massifs coralliens superficiels dans les mers, tout simplement parce que entre l'acidification qui ronge le calcaire dont ils ont besoin et la hausse de température, a priori, l'immense majorité ne pourra pas résister à ça. Donc les massifs coralliens, qui sont de formidables réservoirs de biodiversité, vont disparaître, notamment à cause de l'acidification des océans. Il y a d'autres limites. L'ozone stratosphérique, là, on est plutôt de l'ordre de la bonne nouvelle, un peu à mitiger, mais on est sur une bonne voie, après avoir fortement dégradé l'ozone stratosphérique qui nous protège des UV, de rétablir la présence de ce gaz dans la stratosphère. Il y a les nouvelles entités. Là, on est dans le flou. On devine qu'on est en train d'exploser toutes les limites. Ce qu'on appelle nouvelles entités, c'est tous ces nouvelles substances, les plastiques, les additifs aux plastiques, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, toutes ces substances chimiques qui n'existaient pas avant l'invention de la chimie et qui, depuis quelques décennies, deviennent omniprésentes dans notre environnement. On trouve des plastiques jusqu'au fond de la fosse des Mariannes. Il en pleut dans l'Antarctique. On trouve des corps cancérigènes dans toute l'eau de pluie sur l'ensemble de la planète. Enfin, la situation est complètement hallucinante, on peut dire, quand on commence à se préoccuper de cette pollution. Et pourtant, on ne fait rien. On continue à nous bassiner avec des plastiques recyclables, alors que la seule solution à ce jour, c'est d'arrêter d'émettre ce genre de choses. C'est de réguler, mais au point d'interdire tout ce qui n'est pas indispensable, si on veut que nos enfants n'en soient pas malades, ça semble une évidence. Faut-il vraiment que je continue cette litanie ? En fait, elle est complètement déprimante. Il reste 5 limites. Allez, je vais les passer très vite. Il y a l'eau douce que l'on utilise, que l'on surutilise, et qui est perturbée donc par interaction avec les autres plants. Il y a l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère qui va poser probablement un gros problème technique pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais on en est là de la spéculation. On a la perturbation des cycles biogéophysiques, notamment ceux du phosphore et de l'azote. On en a besoin pour produire notre nourriture aujourd'hui. Mais pour ce faire, on s'est substitué au cycle naturel. On injecte de façon artificielle beaucoup plus, 3-4 fois plus d'azote et beaucoup plus de phosphore que ce que les écosystèmes faisaient circuler en eux autrefois, ce qui pose d'énormes problèmes de surplus, de pollution supplémentaire. Et on est aussi dans le changement d'utilisation des sols. Il est à noter qu'un certain nombre de ces limites sont liées à notre production de nourriture à travers l'agro-industrie, le fait d'avoir industrialisé à outrance, chimiquisé, si j'ose un nouveau mot, notre alimentation, fait que une des premières causes de destruction, voire la première cause de d'alimentation de l'Anthropocène, c'est devenu l'agriculture. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut dire, ok, il suffit de réformer, d'interdire l'agriculture industrielle, chimique, etc. Et là, on lève la main et attendez, la moitié de l'alimentation mondiale est produite de cette façon. Donc si vous arrêtez du jour au lendemain, réfléchissez bien aux conséquences avant. On nous a mis aussi devant des choix qui ont une dynamique, une inertie. Et c'est aussi à ça qu'il faut penser. Il n'y a pas de solution simple pour revenir en arrière.
Et oui, cette interview dure 1h24. Elle sera dès demain matin écoutable sur le site www.émissiondufictionnaire.com. Et c'est donc la troisième interview avec Laurent Testeau. Et celle-ci est assez... sensible, prégnante à écouter. Enfin, on peut avoir les larmes aux yeux et on peut véritablement, ça peut vous déclencher une crise de panique. C'est vraiment le point sur les connaissances actuelles sur l'Anthropocène, sur la catastrophe climatique et écologique. Et c'est très sérieux, posé avec le plus grand calme. Et c'est ça aussi qui, je pense, nous fait hérisser... nous fait hérisser la colonne vertébrale parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se produit et qui va continuer à se produire pendant longtemps. Ah, Karl, heureusement, tu as un petit vinyle un peu gay, couleur fuchsia. Ça va nous remettre dans une ambiance shabada. Non, même pas. Ça nous vient de la BBC encore. Ah zut, la BBC radiophonique.
Ce sera votre cauchemar du soir, la BBC. Ah oui, alors on recommence encore à montrer que la musique dite de librairie ou musique contemporaine, en tout cas faite par des pionniers, des vrais, hein, a servi aussi à nourrir la musique de maintenant. On va parler d'une autre femme, en fait, de Delia Derbyshire. Shine, pardon, à chaque fois je dis Shire, mais c'est... Non, attendez, je vois plus rien. Oui, c'est bien Shire. Et donc ce morceau, Pot au feu, qui a été utilisé par plusieurs rappeurs. On pensera à Danny Brown, à Freddie Gibbs, et je crois qu'il y en a un autre aussi. Le sample arrive au bout d'une minute ou deux de ce morceau. On va écouter le début aussi. Et puis, voilà, c'est la BBC.
Juste après, ça sera l'interview avec l'anthropologue Grégory Delaplace pour son livre « Les intelligences particulières, enquête sur les maisons hantées ».
Et c'est Radio Campus. Thank you.
Je suis en compagnie de Grégory Delaplace. Merci beaucoup de me recevoir au Collège de France. Nous parlons de votre nouveau livre qui s'appelle « Les intelligences particulières, enquête sur les maisons hantées » qui sort aux éditions Vue de l'Esprit, une nouvelle maison d'édition qui déjà fait sens, qui est dans l'obédience de Zone Sensible, un des grands éditeurs belges. Grégory Delaplace, votre parcours d'abord a commencé par des recherches ethnographiques dans les montagnes de Mongolie au début des années 2000. Vous vous êtes intéressé aux différentes façons dont les morts se manifestent auprès des vivants.
Mais oui, tout à fait. Mon premier séjour en Mongolie pour faire de l'ethnographie, c'était même en 99. Et c'est là que je rencontre ces pasteurs nomades du Nord-Ouest où je vais faire mes enquêtes. Et ces enquêtes, au départ, elles étaient censées porter sur les rituels funéraires. Au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'une enquête sur les rituels funéraires, ça impliquait que quelqu'un meure autour de moi, j'ai décidé de réorienter mes recherches pour plutôt étudier la façon dont les morts se manifestent dans le quotidien des pasteurs nomades, justement, de ces pasteurs nomades des montagnes. Et ça m'a conduit très naturellement et très vite à m'intéresser aux rencontres avec les fantômes, qui était une des manières principales dont les morts se manifestaient au quotidien. Donc j'ai commencé, en effet, à recueillir des récits de rencontres avec toutes sortes d'entités invisibles, des morts, donc des revenants, quelquefois, des morts bien identifiés comme morts, mais la plupart du temps, des êtres un petit peu plus... un petit peu plus vague, ou en tout cas dont on ne s'embarrasse pas trop des êtres dont on ne cherche pas trop à connaître la nature exacte, en fait, et qu'on cherche surtout en Mongolie à éviter pour ne pas subir les dommages qui résulteraient du contact direct avec eux, quoi. Et donc voilà, en recueillant ces histoires, je me suis intéressé à cette matière-là, les rencontres avec les fantômes, qui m'a paru assez fascinante et en fait un petit peu sous-estimée en anthropologie.
Alors avec ce nouveau livre, Les intelligences particulières, enquête sur les maisons hantées, vous continuez votre exploration d'une anthropologie des apparitions. C'est comme ça que vous qualifiez vos recherches, en fait, une anthropologie des apparitions.
Tout à fait, c'est comme ça qu'elle a été qualifiée en fait par mes prédécesseurs, notamment par Elisabeth Clavry, qui en fait le sous-titre de son livre sur les apparitions mariales. Le sous-titre de son livre, je crois, c'est simplement une anthropologie des apparitions. Et c'est vraiment dans cette continuité-là que je voulais me situer. C'est un travail que je trouve très convaincant, justement, dans la façon dont la Vierge n'est pas la Vierge Marie et ses apparitions est envisagée à travers toutes les étapes qui ont mené à sa reconnaissance en tant qu'apparition de la Vierge Marie. Et toutes les épreuves institutionnelles auxquelles cette apparition est soumise pour être reconnue comme telle.
Alors, dans votre nouveau livre, votre corpus d'études provient des archives de la Société pour la Recherche Psychique, Society for Psychological Research, une société savante fondée à Londres en 1882. Pouvez-vous déjà nous expliquer ce qu'est cette société savante ?
Oui, alors c'est la Society for Psychical Research, la Société pour la Recherche Psychique. Elle est fondée en 1882 dans le contexte d'une grande ferveur populaire pour le spiritisme, ce qu'on appelle en anglais spiritualism, et ce qu'on a traduit en français, en fait, dès cette époque-là, spiritisme. Une des grandes figures du spiritisme français, c'était Allan Kardec. Il a eu une importance bien au-delà des frontières de la France, mais il prend part à ce grand mouvement qui part des États-Unis après les expériences très médiatiques des Sœurs Fox, qui défraient la presse de l'époque. Donc on est en 1848 à ce moment-là. Mais à partir de ces expériences, du tollé médiatique qu'elles suscitent, il y a un déferlement de ferveur pour les communications avec les morts, soit à travers des personnes jugées particulièrement sensibles et donc particulièrement capables de relayer, d'entendre et de relayer la parole des morts, soit à travers des dispositifs beaucoup plus démocratiques, d'une certaine manière, ouverts à tout le monde, ce qu'on a appelé ensuite les tables tournantes. Donc il y a une passion pour ces phénomènes-là, pour les communications avec la mort et pour, en fait, ce qu'on appellera au fur et à mesure de plus en plus le paranormal. La Société pour la Recherche Psychique est créée par un petit collège d'universitaires, scientifiques, hommes du monde, qui ont en commun d'être passés par l'Université de Cambridge, et donc d'avoir, pour la plupart d'entre eux, appartenu au Ghost Club, une sorte de société secrète d'études des fantômes qui rassemblait les étudiants de Cambridge. Et donc ces universitaires, ces chercheurs, décident de créer la Société pour la Recherche Psychique en 1882 pour soumettre à l'examen scientifique rigoureux tous ces phénomènes dont la population européenne s'empare et sur lequel les gens, la société civile en fait, veut avoir des réponses. La Société pour la Recherche Psychique dit peut-être qu'il y a dans le mouvement spiritualiste, dans les affirmations des médiums, la promesse de nouvelles découvertes, la promesse de la découverte d'un monde invisible qui reste à documenter, mais pour faire de ces découvertes des faits scientifiques, il faut les soumettre aux méthodes de la science expérimentale, ce qu'il reste à faire. Et on ne peut pas croire sur parole les médiums qui communiquent avec les morts, ou on ne peut pas se contenter de tables tournantes comme dispositif de description scientifique de ces phénomènes. Il faut rassembler tout ça, faire une base de données, bon, ils ne disent pas base de données à l'époque, mais faire un fonds documentaire qui permettra d'établir, potentiellement, si ces phénomènes sont avérés, d'établir les lois qui gouvernent leurs manifestations. Les maisons hantées font partie des phénomènes qui intéressent la Société pour la Recherche Psychique. Ce n'est pas les seuls, c'est même pas ceux qui les intéressent le plus, mais ça fait partie des phénomènes qui intéressent la Société pour la Recherche Psychique.
Qu'est-ce qui les intéresse le plus ?
Ce qui les intéresse le plus, dès cette époque-là, c'est la transférence de pensée. Ce que Frederick Myers, 2 ans après la création de la Société, je crois en 1884, si mes souvenirs sont bons, commencera à appeler télépathie. C'est lui qui a inventé le mot, et c'est un membre de la Société pour la Recherche Psychique. Ça fait partie des premières découvertes, ou en tout cas documentations à large échelle, que produit en fait, la Société pour la Recherche Psychique, c'est sur le phénomène de la télépathie. Les progrès sont plus lents sur les questions de maisons hantées. Ils sont beaucoup plus fulgurants dans les phénomènes de transférence de pensée.
Votre livre se concentre sur les enquêtes menées juste après la Seconde Guerre mondiale par un tout jeune membre de la société, Donald James West. Vous écrivez que c'est un enquêteur qui ne croit pas aux fantômes et il chercherait plutôt des faits scientifiques recevables en allant inspecter ces maisons hantées, puisque ce sont des personnes qui vivent dans ces maisons, qui écrivent à la société savante pour qu'il y ait enquête dans leur maison.
Tout à fait, oui. Donald West, c'est un personnage curieux. C'est un jeune étudiant en médecine, comme vous l'avez dit. Au moment où il est engagé comme assistant, plutôt agent de recherche, chargé de recherche par la Société pour la Recherche Psychique en 1946, je crois qu'il est engagé. À ce moment-là, donc, il fait ses études de médecine. Il vient d'un milieu assez modeste à Liverpool. Et grâce à cette société, il est aussi projeté dans une société bourgeoise, voire aristocratique. En tout cas, une société intellectuellement assez distinguée. Et il se prend de passion pour l'étude des phénomènes psychiques. En tant que chargé de recherche, Une de ses responsabilités principales, c'est d'enquêter dans les maisons hantées, en tout cas dans ces maisons dont les occupants sollicitent la Société pour la Recherche Psychique, en disant y a un problème dans notre maison, quoi. Mais en effet, lui, il est sceptique, il est très sceptique. Bon, la plupart des membres de la société se disent sceptiques, mais lui, il est plus que ça, quoi. Il est déjà convaincu, déjà tout jeune, en fait, avec relativement peu d'expérience dans la recherche psychique. Dès les premières années de son emploi à la Société pour la Recherche Psychique comme chargé de recherche, il se décourage de trouver quoi que ce soit d'intéressant dans la maison hantée. Pas parce que les fantômes n'existeraient pas, bon, c'est pas trop comme ça qu'il présente sa position, c'est plutôt que, en fait, on ne peut pas savoir. Les maisons hantées sont des lieux trop complexes. Les témoignages qu'on peut y recueillir sont trop embrouillés, sont trop peu vérifiables pour espérer pouvoir en faire le socle d'un travail scientifique. On ne peut pas faire une science des maisons hantées. Or, l'ambition de la science psychique, c'est précisément de faire œuvre de science, de faire œuvre scientifique, d'établir des faits scientifiques. Selon West, c'est désespéré de le faire dans les maisons hantées. On n'y arrivera pas. Il est découragé de ça. Et donc, il veut en convaincre ses collègues dans des termes assez véhéments. Puisque ce n'est pas l'opinion... consensuel en fait à la société. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1946 et 1949, quand il fait ses premières enquêtes, il y a encore beaucoup de membres qui croient à la vertu du témoignage spontané. En fait, les phénomènes spontanés sont jugés un matériau indispensable de la recherche psychique. Il y a ce qu'on peut établir en laboratoire, d'une part, et il y a ce dont les gens du commun rendent compte. Pour la plupart des membres de la société, vraiment, la pratique de la science psychique doit marcher sur ces deux jambes-là. Doit faire des expériences de laboratoire, mais ne doit jamais renoncer à recueillir des phénomènes spontanés. Pour West, clairement, son intérêt l'emmène vers le laboratoire. Le recueil de phénomènes spontanés, peut-être que pour des faits de transmission de pensée, par exemple, qui sont facilement corroborables, ça peut être acceptable. Pour les maisons hantées, c'est trop embrouillé. Pardon. Il parle, pour décrire les enquêtes sur les maisons hantées, il parle du bourbier du témoignage humain. C'est quelque chose qui ne peut être démêlé facilement. Donc il faut déserter ce champ des maisons hantées et faire porter les efforts de la science psychique sur d'autres domaines.
Alors, votre enquête, vous l'avez menée, Grégory Delaplace, en tant qu'ethnologue, c'est bien cela dont il s'agit.
Oui.
C'est en tant qu'ethnologue, en tant que professionnel de cette discipline que vous menez cette enquête. Et vous écrivez très bien à la fin de votre introduction, et ça serait notre première aparté, en fait, votre ambition, que votre ambition dépasse le cadre de ce type d'étude. Je lis le dernier paragraphe qui est assez fondamental, et on y reviendra après plutôt en conclusion. Mais vu que ce dernier paragraphe de votre introduction s'y trouve en introduction, je souhaiterais que nous commencions à en parler, je vous lis longuement. Mais il est toutefois possible que ce livre, ou plutôt son auteur, se soit laissé entraîner un peu plus loin que cela. Il est même possible que je me sois mis en délicatesse à cet égard vis-à-vis des attendus de ma propre discipline, l'anthropologie sociale, et qu'on juge en me lisant que j'ai outrepassé les limites de la distance ethnographique. Il est en effet possible que ce livre, ou plutôt son auteur, se soit laissé aller à tenter lui-même de caractériser ce dont il était effectivement question dans ces cas de maisons hantées. Il est en fait possible, pour tout dire, que j'ai été conduit à m'inscrire dans la continuité du programme de recherche des sciences psychiques, en m'efforçant de reformuler, à partir d'une anthropologie des apparitions, les termes du problème ontologique que posent les maisons hantées. Je ne peux le nier, autrement dit, que l'une des ambitions de ce livre est bien de parvenir non seulement à décrire, mais aussi à comprendre ce qu'il se passe dans une maison hantée, et donc de tenter, à mon tour, de qualifier les fantômes comme un certain type de choses. Pouvez-vous nous expliquer, Grégory Delaplace ?
Oui, c'est une hésitation qui a parcouru le livre et le travail sur les fantômes qu'il a occasionné, qu'il a réorienté par rapport aux matériaux mongols, pour différentes raisons, en fait. La première, c'est ce que ça fait de travailler sur des archives pour un anthropologue. Quand on fait un travail d'anthropologue qui ne passe pas par l'ethnographie fondée sur l'observation participante, on est forcé d'adapter ses méthodes. il n'était pas question pour moi d'aller interroger, faire un entretien avec Donald West, encore que j'aurais pu, hein, il est mort en 2019. J'avais déjà commencé la rédaction du livre. Plusieurs anciens membres de la Société pour la Recherche Chic m'en avaient découragé. Mais, de toute façon, je ne pouvais pas aller enquêter dans les maisons qui, la plupart du temps, n'existaient plus, ou dont les habitants avaient depuis longtemps quitté les lieux. Donc, il faut travailler sur un matériau qui est déjà constitué. Ça conduit à être peut-être un petit peu plus téméraire qu'on le serait si on se mettait juste au service des discours, des pratiques qu'on observerait dans le cadre d'une observation participante, quand on vit chez les gens, quand on partage un quotidien avec eux. On est empli en fait de ce sentiment de responsabilité vis-à-vis de ce qui nous est livré. Donc, on s'attache à restituer le monde dans lequel les personnes avec qui on vit vivent, et le monde qui a été le nôtre pendant le temps de l'ethnographie. C'est ce que j'ai fait avec les Mongols, chez les pasteurs nomades avec qui j'ai vécu. Il n'était pas question de dire quelque chose des fantômes en général, en fait. Il s'agissait de voir comment les morts intervenaient dans la vie quotidienne des pasteurs nomades dont j'avais partagé le quotidien. En me penchant sur ces archives, forcément, étant donné que ce sont des archives, on se sent une responsabilité moins directe vis-à-vis des personnes dont il est question. On assiste à un quotidien qui s'est déjà déroulé, on reparcourt des événements auxquels on n'a pas participé soi-même, donc on est tenté d'avoir une position un petit peu plus détachée vis-à-vis de ce qui s'y passe. Et il y a aussi la deuxième chose, c'est que ces archives sont écrites, rassemblées en fait du point de vue de l'enquêteur. Les rapports sont écrits par Donald West, les documents sont rassemblés par Donald West et ils ont été archivés, sélectionnés par Donald West. Donc c'est le point de vue de Donald West qui ressort beaucoup. Alors, j'aurais pu me mettre juste au service de la parole de Donald West et voir comment il traitait les fantômes et ce qui l'intéressait là-dedans. Ça me semblait insuffisant à plusieurs égards. Le premier, c'est que les témoins eux-mêmes semblaient proposer quelque chose d'un petit peu différent par rapport aux expériences dont ils étaient les témoins. Alors que Donald West, lui, essayait de botter en touche la plupart du temps, soit en se dérobant aux demandes des témoins qui disaient « Bon, qu'est-ce qui se passe chez moi ?» Bon, Donald West, en gros, disait « Je sais pas ». Et il disait ensuite « Ça m'intéresse pas ». Donc, bon, c'était un petit peu court comme réponse. Et ça donnait envie d'essayer de traquer, en fait, dans la parole des témoins que Donald West avait lui-même recueilli, ce qui semblait leur arriver à eux. Et par le contraste entre ce qui leur était arrivé et qu'ils essayaient de raconter et ce que Donald West en faisait, on avait plus que juste une manière d'envisager les fantômes. On avait l'amorce d'une indication de ce pourquoi les fantômes n'étaient pas recevables d'un point de vue scientifique. Et donc, pas seulement la conception des fantômes qui accourt dans l'Angleterre de l'après-guerre, mais la raison pour laquelle la raison d'un désaccord sur ce que peuvent ou ne peuvent pas être les fantômes et les raisons d'une impossibilité à traduire les fantômes dans les méthodes, de les transposer, de les accueillir dans les méthodes des sciences expérimentales. Et donc, ça mettait sur la piste d'une caractérisation plus générale de ce qu'étaient les fantômes au-delà de ce que les témoins en perçoivent et au-delà de ce que Donald West croit en savoir. Une autre raison donc pour laquelle j'ai été conduit presque à sortir de la zone de confiance ethnographique, c'est que l'exemple, l'étude de cas mongole s'offrait en comparaison à ce que je voyais dans les archives. Et des continuités m'apparaissaient qui me conduisaient, m'incitaient à aller un petit peu plus loin que le constat de la localisation de certaines pratiques à un certain endroit. La façon dont les fantômes apparaissent en Angleterre après la guerre n'est pas exactement la même que la façon dont ils apparaissent aux pasteurs nomades mongols du début des années 2000, mais il y a des continuités étonnantes, notamment dans la façon dont ils sont perçus et dans la manière dont ils paraissent se démarquer d'une expérience ordinaire.
Donc ça vous permet, par ces deux expériences, d'identifier certaines caractéristiques de ces expériences d'apparition. C'est ça que vous allez essayer de caractériser, en fait. Alors, il y a différents éléments. Leur aspect inquiétant, qui provoque de l'inquiétude. Vous revenez à l'inquiétante étrangeté théorisée par Freud. Il pourrait y avoir aussi leur imperception. Et puis, le fait aussi qu'elles sont, ce serait la troisième caractéristique, le fait qu'elles sont aussi perceptuellement incomplète. Pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, c'est ce qui ressort assez bien des archives, en fait. Et c'est la première raison pour laquelle j'ai mis mon nez dedans. À l'issue de mon travail en Mongolie, j'avais déjà j'avais déjà proposé de caractériser ce qu'il y avait de commun aux expériences qu'on me racontait à partir de ces trois caractéristiques. Donc la complétude perceptive, le problème dans la gentilité que ça pose et le caractère incommensurable de la perception qui produisent, la sensation qui produisent. Il y avait une triple inquiétude là-dedans qui me semblait vraiment signaler ce qu'était une apparition en Mongolie. Et en lisant la littérature ethnographique, en lisant le travail de Pierre Deléage sur les Charanawa d'Amazonie, en lisant même des travaux sur d'autres types d'apparitions, comme donc les apparitions mariales chez Elisabeth Cabri,
Et même aussi les études d'apparition d'OVNI.
Oui, tout à fait, oui. Par Lagrange notamment, voilà. Et ensuite par Esqueré.
Voilà.
J'avais le sentiment que ce que j'avais observé chez les Mongols, pouvait s'étendre, en fait, s'appliquer à d'autres apparitions ailleurs, quoi. Et je voulais savoir dans quelle mesure. Et en commençant par les apparitions de morts, de fantômes, les hantises, si les fantômes apparaissaient de la même manière ou non en Angleterre et en Mongolie. Et j'avais besoin, enfin, en Angleterre, je ne savais pas encore qu'il y avait le matériau disponible en Angleterre pour le faire. Je cherchais justement un fond documentaire qui me permettrait d'accéder à un grand nombre d'expériences de rencontres avec un fantôme, d'apparition de fantômes. Je ne savais pas où trouver. Et c'est là où j'ai entendu parler de cette société, et avec l'espoir qu'elle contiendrait, ce qui me manquait vraiment, les récits d'expériences primaires, en fait, c'est-à-dire ceux qui sont racontés par le témoin même. Ce qui ne m'intéressait surtout pas, c'était les on-dit ou le folklore, en disant tout ce qui avait intéressé les études folkloriques, qui disaient, on raconte qu'à tel endroit, il s'est passé ça. C'est pas ça, c'est pas la matière qui m'intéressait. La matière qui m'intéressait, c'était vraiment l'apparition de l'invisible, l'événement d'apparition. Et j'espérais que dans ces archives de la Société pour la recherche psychique, comme ils avaient recueilli ce genre de matériaux, qu'il y ait ce fond documentaire d'expériences primaires, de récits primaires d'expériences de rencontres avec l'invisible. Et ce que j'ai trouvé a dépassé largement les espérances, parce qu'il y avait non seulement les récits d'expériences des témoins, souvent sous forme de lettres. Les témoins écrivent à la Société pour la recherche psychique en disant « Bon ben voilà ce qui m'est arrivé, venez s'il vous plaît ». En général, le représentant de la société répond par une lettre « Est-ce que vous pouvez me dire plus précisément ce qui s'est passé ?» Et là, on a vraiment un récit d'expérience développé. Donc il y a non seulement ça, mais ensuite le récit de l'enquête qui est menée par le représentant de la société et parfois par d'autres institutions. Donc, il y avait une base comparative fantastique. Mais la première chose que je pouvais mettre à l'épreuve, c'était la caractérisation de la sensation et de son étrangeté. Et les raisons pour lesquelles cette sensation paraissait étrange et les raisons pour lesquelles elle appelait une enquête. Et c'est effectivement les trois mêmes caractéristiques que j'ai retrouvées sans avoir à forcer le trait dans les expériences que je recueillais dans la société. Au contraire, je voyais ces trois critères apparaître aussi et former en fait une unité dans toutes ces sensations. Les fantômes n'étaient pas les mêmes. Il y a des fantômes qui en Mongolie dont on n'a pas idée en Angleterre. Des histoires, par exemple, de vieilles femmes qui font frire des beignets sur le bord de la route. Bon, personne n'a jamais raconté ça en Angleterre. D'ailleurs, les fantômes sont très peu des choses d'extérieur en Angleterre, en Mongolie beaucoup plus. Et les fantômes en intérieur sont plus délicats ou problématiques ou rares, puisque les intérieurs sont souvent des yourtes en Mongolie, dans l'endroit où j'ai travaillé. Donc, c'est pas le même contexte d'apparition. Mais par contre, ce qui est commun, c'est ce que j'ai appelé à certaines occasions la texture de la sensation, c'est-à-dire la qualité particulière de la sensation qui la rend inquiétante. Et donc ça, c'est la même chose, cette incomplétude perceptive, le fait qu'on voit des choses qu'on n'entend pas, qu'on entend des choses qu'on ne voit pas, tout ça. Le problème dans l'agentivité, donc c'est des résultats d'action sans agent, ou des agents qui font des actions complètement invraisemblables. Et enfin, cette même chose qui est en fait la chose la plus caractéristique, qui est cette incommensurabilité sensorielle. C'est-à-dire, c'est des choses qui vous apparaissent comme quelque chose d'autre qui y ressemble, mais que ça n'est décidément pas. Et donc là, il y a divers dispositifs linguistiques qui permettent d'exprimer ce décalage dans la réalité, cette brèche qui s'ouvre et qui appelle l'enquête. Et c'est ça que j'ai vu vraiment dans ces archives, que je n'avais pas aussi bien vu en Mongolie, c'est que ces trois caractéristiques sont des caractéristiques de défaut perceptif, en fait. C'est des manques, un défaut de perception, un défaut d'agentivité, un défaut de commensurabilité. Et ces trois défauts créent un déséquilibre qui appelle l'enquête, qui absorbe, qui aspire vraiment le témoin dans une enquête qui fait malgré lui, dès qu'il l'est confronté à cette expérience.
Alors, on va en arriver justement à cette notion d'enquête. Juste avant, pour résumer un peu ce que vous venez de nous expliquer, Grégory Delaplace, on comprend que nous avons affaire à un problème de qualification avec ces apparitions que vous résumez ainsi. Des formes humaines comparables à nul autre s'adressent à eux par des signes intelligents mais inintelligibles qu'ils ne peuvent percevoir que de façon parcellaire, des sensations, des cris, des bruits singuliers qui leur parviennent de façon opaque et désaccordée. Et comme vous venez de commencer à nous l'expliquer, c'est cela qui amène, qui appelle, le terme peut-être appelé et peut-être mieux choisi, ça appelle à enquête. Si bien que cette notion d'enquête va être un élément important. D'ailleurs, votre sous-titre, c'est « Enquête sur les maisons hantées ». Je vous interroge maintenant sur ce terme d'enquête qui ne vient pas de n'importe où.
Non, il est très chargé même, à tel point qu'on pourrait hésiter à l'utiliser, mais tant il a des racines complexes dans la pensée philosophique européenne, en fait. Hein. C'était un terme qui était inévitable, puisque ce sont les enquêtes qui structurent ces archives. D'une part, parce qu'elles sont constituées de par l'effort d'enquête de la société pour la recherche psychique, et de par les enquêtes que Donald West, parmi d'autres membres, hein, à d'autres époques, mais que Donald